franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud.
C'était un lieu commun il y a quelques mois. Les animateurs du printemps arabe, tunisien ou égyptien s'inspireraient à coup sûr de l'exemple turc, c'est-à-dire de cet islamisme modéré de la Turquie qui pouvait coexister avec la démocratie et qu'on citait un peu partout en exemple, et pas uniquement dans les pays musulmans. Il faut aujourd'hui déchanter, non seulement parce que la victoire électorale des islamistes, tant au Caire qu'à Tunis, inspire les plus grandes craintes en matière de droits de l'homme et surtout de droits de la femme, mais aussi parce que l'exemple turc ne fait plus autant rêver. Le régime d'Ankara se durcit. Le pouvoir n'hésite plus à s'attaquer à la liberté de la presse. Les arrestations de complotistes ou de personnes présentées comme telles se multiplient et, comme au pire moment de la dictature militaire, la répression anti-kurde est à nouveau à l'ordre du jour. Bref, pour les observateurs les plus aguerris, on est en train de passer d'un État kémaliste à un État AKP, du nom du parti au pouvoir, celui du Premier ministre Recep Erdogan, qui semble procéder à une islamisation progressive de son pays. Qu'en est-il exactement? Monsieur X, qui m'a souvent parlé de la Turquie, fait le point.
Pour commencer, pour vous donner une idée de la radicalisation du pouvoir en place à Ankara, je vous donnerai un seul chiffre. Aujourd'hui, 95 journalistes turcs sont en prison.
Ah, c'est un chiffre inquiétant.
Et
hein.
Qui permet de douter sérieusement de la pratique démocratique dans la Turquie d'aujourd'hui.
Mais si j'ose dire, la Turquie revient de très loin.
Ouais, vous avez raison, car elle a connu de nombreux épisodes dictatoriaux à cause du pouvoir sans partage qu'a longtemps exercé l'armée.
Depuis Atatürk, en fait.
Exact. Un pouvoir qu'elle a perdu très récemment après la victoire électorale du parti AKP d'Erdogan.
Oui, on dit Erdogan en turc, hein, mais nous allons prononcer Erdogan.
Reste en français.
Donc l'AKP, c'est un parti islamiste. Hein.
Mais considéré comme modéré, ou conservateur, selon les points de vue. Un parti qui, jusqu'à maintenant, en tout cas, n'entend pas imposer la loi islamique.
La charia. Ouais.
C'est ça. Mais aussi un parti qui, pour avoir triomphé à 3 reprises lors des élections législatives, a dû se battre contre les militaires qui sont les défenseurs farouches de la laïcité. Un combat qui n'a pas toujours eu lieu à armes ouvertes.
Que voulez-vous dire, là?
Eh bien, Erdogan et ses partisans ont eu tendance, et ça continue aujourd'hui, à accuser l'armée de comploter. Et si certains de ces complots ont bien été réels, rappelez-vous, Ergenekon. D'autres me semblent purement et simplement imaginaires.
Peut-être, mais au départ, il y a quand même cette longue tutelle de l'armée sur le pays.
Alors, un peu d'histoire, si vous le permettez.
Un petit peu.
Le général Mustafa Kemal, le père de la Turquie moderne, a pris le pouvoir il y a 89 ans. Atatürk, considéré encore aujourd'hui comme une sorte de personnage intouchable, a fait de son pays un État laïque et l'a débarrassé des traditions rétrogrades du sultanat. Mais en même temps, il a fait de l'armée le fer de lance de sa politique et aussi le garant des progrès considérables qu'il a introduits.
Et donc d'abord la laïcité.
Et sur ce point, les généraux ont toujours été intransigeants.
Oui, ils se sont institués les gardiens de la laïcité.
C'est ça. Ouais. Cependant, ils ne s'en sont pas tenus à cette vigilance rigoureuse. En fait, jusqu'à ces dernières années, ils ont exercé la réalité du pouvoir. Et à chaque fois qu'ils l'estimaient nécessaire, ils ont fomenté des coups d'État et placé un des leurs à la tête du pays. Mais, et c'est encore plus grave, cette prééminence leur a permis de perpétrer de nombreux crimes. Autrefois contre les communistes et les opposants de gauche, et plus récemment contre les Kurdes.
Mais parce que ce sont aussi ces militaires de farouches nationalistes.
Hein. Et il ne faut pas oublier que l'un de leurs inspirateurs a été un homme dont je vous ai déjà parlé, un personnage au nom prédestiné, Türkeş, un pantouraniste, c'est-à-dire un partisan de l'union de tous les Turcs du Moyen-Orient et même des habitants des républiques turcophones d'Asie. Ce qui signifie aussi pour lui que seuls doivent demeurer en Turquie les vrais Turcs.
Alors il faudrait, selon lui, en chasser les Juifs, les Arméniens...
Et les Kurdes, bien sûr, qui sont 15 millions en Turquie, sur une population totale de 73 millions. Enfin, passons. Je vous rappelle simplement, et vous ne l'avez certainement pas oublié, que ce Türkeş était un admirateur d'Hitler.
Ouais. Et il faut aussi souligner que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Turquie a longtemps flirté avec l'Allemagne nazie. Hein.
Même si en principe elle était neutre. Mais en février 1945, Ankara se ressaisira et finira par se ranger du côté des Alliés. Hein.
Pour autant, on ne peut pas dire que tous les militaires turcs étaient des nationalistes d'extrême droite.
C'est juste. On assistera même en 1960 à un curieux épisode. La Turquie était alors dirigée par un gouvernement de droite, issu des élections libres de 1950. Sa base électorale, c'était la bourgeoisie commerçante, les notables provinciaux et la population rurale. Autant dire que ce n'était pas un gouvernement de progrès. Mais pour les jeunes officiers, il y avait plus grave. Ces conservateurs menaçaient l'héritage d'Atatürk. Et ça, pour eux, c'était impardonnable.
Mais concrètement, comment s'est traduit cette atteinte-là à l'héritage kémaliste ?
Le gouvernement avait commencé de s'attaquer au fondement de la laïcité en réintroduisant, par exemple, l'enseignement religieux dans les écoles primaires ou en autorisant à nouveau l'appel à la prière en arabe.
Ouais. Les militaires vont donc s'emparer du pouvoir, mais et politiquement, comment peut-on les classer, ceux-là ?
Beaucoup sont plutôt de gauche. Mais il y a aussi parmi eux des nationalistes comme l'inévitable Türkeş, et sa présence inspire quelques craintes.
Et la menace de voir s'installer un pouvoir totalitaire.
Oui, d'autant que le gouvernement militaire montre d'emblée qu'il ne recule pas devant les mesures extrêmes. Il fait par exemple exécuter le premier ministre déchu et deux de ses ministres. Cependant, et la surprise est d'importance, les jeunes officiers au pouvoir changent de cap. Les plus extrémistes, comme Türkeş, sont écartés. Et l'orientation des nouveaux hommes forts devient sociale et même progressiste. Ainsi, à côté de l'instauration de la sécurité sociale, d'un régime de retraite, de la légalisation du droit de grève, etc., les militaires adoptent une nouvelle constitution qui privilégie les libertés fondamentales.
Alors cette intervention de l'armée est donc plutôt positive.
Mais malheureusement, ce ne sera pas toujours le cas. Car l'armée, à de nombreuses reprises, va imposer sa loi à chaque fois qu'elle l'estimera nécessaire. Et toujours avec la bénédiction de Washington. Les États-Unis veilleront toujours étroitement sur la Turquie. Ne serait-ce que parce que ce pays, membre de l'Alliance Atlantique, avait une frontière commune avec l'URSS. Et comme dans tous les autres pays de l'OTAN, les Américains y superviseront la création de réseaux Gladio.
Oui, Gladio, rappelons-le, c'était une série de noyaux militaires clandestins initiés par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour faire éventuellement échec à une invasion soviétique.
Hein. Oui, et comme ils ont largement recruté dans les milieux les plus anticommunistes, un individu comme Türkeş se trouvait presque naturellement proche de ces gens. Lui et la structure secrète qu'il a inspirée, sinon créée, une milice qui balance entre politique et gangstérisme, les loups gris, et qui va jouer un rôle clandestin important et néfaste dans l'évolution de la Turquie, mais on va en reparler. En 1965, l'armée cède le pouvoir à la suite d'une consultation électorale.
C'est un retrait sincère ?
Non, le gouvernement civil demeure sous surveillance. Et comme, malgré un réel développement économique, les mécontentements montent dans le pays, ils sont prêts à reprendre les choses en main.
Mais est-ce qu'ils vont faire hein?
Oui, pour mettre fin au désordre, c'est en tout cas ce qu'ils prétendent. Donc, en 1971, nouveau putsch. Mais à la différence des jeunes officiers de 1960, les militaires putschistes de 1971 ne sont pas des progressistes. Bien au contraire, ils accentuent la répression contre la gauche, répression déjà engagée par le pouvoir civil. État de siège, tribunaux militaires, arrestations arbitraires, c'est le début d'une période marquée par la violence.
Et ce Türkeş joue sa partition dans ce climat ?
Bien évidemment, car face aux forces de répression, on voit émerger un terrorisme suscité par des mouvements kurdes et d'extrême gauche. Les loups gris de Türkeş répondent par des attentats et des affrontements dans la rue qui font de nombreuses victimes. Toutefois, malgré cet activisme fasciste, Türkeş accède à une sorte de respectabilité. Et en 1975, il est même nommé vice-premier ministre du gouvernement conservateur de Süleyman Demirel. On lui confie alors la police et l'éducation.
Ah, c'est un poste clé pour un extrémiste.
Évidemment, surtout pour un homme qui affirme publiquement « Nous devons exterminer les Kurdes, les Arméniens, les Arabes et les Juifs ».
Depuis Atatürk, ce sont donc les militaires qui tirent les ficelles, la preuve. Avec cet article publié en décembre 2002 par Le Monde sous la signature de Marie Jégo. En Turquie, c'est l'armée qui décide des grandes orientations de la politique étrangère et détermine les règles du jeu politique. À trois reprises par le passé, elle est intervenue brutalement en 1960, 71, 80, au nom de la sécurité nationale. Au quotidien, l'armée contrôle la vie universitaire par l'intermédiaire du Conseil de l'enseignement supérieur et surveille les médias par le biais du Haut Conseil de la radio et de la télévision. Elle est un acteur économique de poids qui investit tant dans l'agroalimentaire que dans l'automobile. Enfin, éloignée des querelles et des scandales inhérents aux partis politiques traditionnels, largement discrédités auprès de la population, l'armée est une valeur sûre, certainement l'institution la plus respectée.
Türkeş restera 2 ans au gouvernement avant de rallier les conservateurs qui seront ensuite au pouvoir. Pendant tout ce temps, les loups gris perpètrent de véritables massacres au Kurdistan. L'organisation paramilitaire de Türkeş agit alors en milice sous-traitante des forces de l'ordre. Au cours de cette décennie 80, le pays vit dans un perpétuel état de violence et le bilan humain est très lourd. 5 000 morts et presque 20 000 blessés.
Mais tous ces morts ne peuvent pas être seulement imputés aux loups gris.
C'est vrai, mais les massacres de masse contre les minorités ethniques ou religieuses sont souvent de leur fait. C'est aussi à cette époque que la dérive mafieuse commence et que les loups gris se lancent dans le trafic de drogue. Car les liens entre la mafia et l'extrémisme nationaliste seront désormais une constante. Il faut aussi souligner qu'on assiste à la même époque à la création d'une nouvelle organisation secrète, la contre-guérilla.
Mais c'est quoi ça?
C'est l'émanation directe de ce gladio à la turque dont je vous ai parlé. Et cette structure clandestine reçoit à la fois le soutien de l'état-major et de la CIA. En fait, à l'image de ce qui se passe en Italie, il s'agit de mettre en place une stratégie de la tension propice à l'établissement d'un régime autoritaire et surtout très anticommuniste.
Il y a aussi, en 1974, l'épisode chypriote.
Oui, l'intervention militaire turque qui répond à celle des colonels grecs.
Et qui aboutit à la scission de Chypre, qui perdure jusqu'à aujourd'hui.
Cette action militaire très populaire en Turquie, où l'on a toujours revendiqué la possession de l'île, a bien sûr renforcé le prestige de l'armée. Parallèlement, les loups gris, qui bénéficient d'une quasi-impunité, infiltrent les structures de l'État.
Les loups gris ont des rapports avec cette contre-guérilla dont vous avez évoqué la création?
Bien sûr. Tous ces gens travaillent la main dans la main, car ils poursuivent le même but, l'établissement d'un pouvoir totalitaire. Et ils pensent atteindre leur objectif en 1980.
1980, que se passe-t-il alors?
Prenant prétexte du désordre croissant, de la crise économique et de l'échec de la coalition gouvernementale, les militaires provoquent un nouveau putsch.
Ouais, pour remettre de l'ordre, j'imagine.
C'est toujours le prétexte qu'ils invoquent. Ils décrètent donc l'état de siège, exécutent une 50aine d'opposants, essentiellement de gauche, bien sûr, et en enlèvent plusieurs centaines d'autres qui seront systématiquement torturés et dont certains ne reparaîtront jamais. Enfin, 600 000 personnes sont placés en garde à vue et plusieurs dizaines de milliers d'autres sont emprisonnés. À noter que Türkeş aussi est arrêté, comme tous les autres dirigeants politiques.
Mais pourquoi alors que les militaires ne font qu'appliquer son programme?
Et mettre en pratique son idéologie nationaliste et xénophobe. Oui, mais les putschistes ne sont nullement décidés à partager le pouvoir et Türkeş va rester 4 ans et demi en prison. Et ne reprendra ses activités politiques qu'en 1987. Toutefois, malgré cet effacement relatif, ses fidèles n'ont cessé de continuer à infiltrer les milieux mafieux et toutes les structures de pouvoir, notamment les services spéciaux. Et lorsque cet extrémiste meurt d'une crise cardiaque en 1997, ses funérailles sont quasi nationales et de nombreux dignitaires du gouvernement viennent lui rendre hommage.
Et qui sont ces militaires alors qui ont pris le pouvoir en 1980?
Le numéro 1, c'est le général Evren. Un officier supérieur qui, à la tête du département des opérations spéciales, préparait son coup depuis longtemps.
Le département des opérations spéciales, avez-vous dit?
Une organisation semi-clandestine qui est en fait devenue le nouveau fauné du gladio turc.
Ça devient compliqué parce que vous m'avez aussi parlé d'une autre structure, la contre-guérilla.
Eh bien, au risque de simplifier, disons que c'est la même chose. Et c'est toujours l'émanation de Gladio que les Américains appellent « stay behind ».
Oui, rester derrière. Et ce Gladio-là, par l'intermédiaire du général Evren, est donc maintenant au pouvoir en 1980.
Et malgré la mise à l'écart de Türkeş, il s'appuie toujours sur les loups gris qui, plus que jamais, représentent une force considérable dans le pays. Au début des années 1980, on estime qu'il existe alors plus de 1500 groupes de loups gris.
Et ça fait combien d'hommes, ça ?
Près de 200 000. Et ces militants actifs peuvent compter sur 1 million de sympathisants. Ce sont eux qui, en mettant en œuvre à la lettre la stratégie de la tension, ont permis à Evren de s'emparer sans coup férir du pouvoir.
Soyez plus précis, là. Cette stratégie de la tension se traduisait comment dans la réalité ?
Ça n'est pas pour rien qu'on a établi une comparaison avec l'Italie des années de plomb.
À peu près à la même époque.
En effet. Et on pourrait également parler de la Belgique. Alors, concrètement, il s'agit de perpétrer des actes criminels.
Ouais, des attentats.
Mais aussi des assassinats, des exactions, qui peuvent être indifféremment attribués aux extrémistes de gauche ou de droite.
En Italie, les néofascistes et les brigades rouges.
C'est ça. Le but étant de faire la démonstration que le pays sombre dans le chaos et que seul un gouvernement fort pourra rétablir l'ordre. Et pour ne parler que de la Turquie, il faut observer qu'attentats et assassinats cessent comme par miracle, dès la cession au pouvoir du général Evren.
Et ce n'est pas par hasard.
Bien entendu. Mais parallèlement, il faut aussi, dès que l'opération de prise du pouvoir est réalisée, mettre au pas tous ces hommes de main qui ont concouru à appliquer cette stratégie de l'attention.
C'est essentiellement les loups gris, alors.
C'est pourquoi Türkeş est mis à l'ombre et que des centaines de ses sbires sont raflés. Mais ils ne restent pas très longtemps incarcérés, car on leur fait très rapidement des propositions très alléchantes.
Par exemple,
oui. Et puis on leur promet liberté et salaire s'ils consentent à s'engager dans la lutte contre les séparatistes kurdes.
Et qui leur fait cette proposition, hein ?
Les services secrets turcs.
On en fait donc des mercenaires, alors, au service de l'État. Les loups gris se sont, par conséquent, reconvertis ?
Oui, sans toutefois abandonner le quotidien de leurs activités qui sont essentiellement mafieuses.
Oui, mais dit le trafic de drogue.
Entre autres. Les loups gris ont très vite versé dans le gangstérisme. Et la preuve en sera apportée de façon spectaculaire en 1996. Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'ils ont été mêlés à presque tous les mauvais coups qui ont accablé la Turquie pendant les décennies 70, 80 et 90. Un seul chiffre, mais il est éloquent. Après le putsch de 1981, quand le nouveau pouvoir militaire a voulu adresser un avertissement aux loups gris, la justice a inculpé un certain nombre d'entre eux pour un total de presque 700 meurtres. Mais il me faut aller encore plus loin.
C'est-à-dire ?
C'est à partir de cette époque que les observateurs de la vie politique turque ont commencé à utiliser une curieuse expression. Pour évoquer le pouvoir, ils parlent désormais d'état profond.
Comme s'il y avait deux pouvoirs, donc le pouvoir apparent et l'autre, le vrai.
Exactement.
Et que serait cet état profond, alors ?
En 1980, tout en donnant à la Turquie une nouvelle constitution qui leur offre le pouvoir exorbitant d'intervenir à tout moment s'ils jugent que les valeurs républicaines sont en danger.
Oui, l'armée est garante de la République.
Mais ça ne leur suffit pas. Pour parfaire leur pouvoir, les généraux ont renforcé le MGK. Acronyme du Conseil National de la Sécurité.
De quoi s'agit-il exactement, là ?
Le MGK, qui regroupe président, ministre et membres de l'état-major, est une structure permanente, placée sous l'autorité d'un militaire. C'est ce MGK, et lui seul, qui détermine la politique sécuritaire du pays. Il peut intervenir dans tous les domaines, même sur les sujets de société, et ses décisions sont irrévocables.
Alors qu'est-ce que c'est, alors ? Un deuxième gouvernement ?
Ou plutôt, le seul vrai gouvernement de la Turquie.
Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud.
Extrait d'un article du Monde de février 2011, signé Nicolas Boursier. Longtemps, l'armée est restée cette valeur sûre, certainement l'institution la plus respectée du pays, éloignée des scandales liés aux partis traditionnels. Mais la persistance des généraux à vouloir s'immiscer dans la vie publique a eu raison de leur entêtement. Au nom de la sécurité nationale, l'armée est intervenue brutalement à 3 reprises depuis 1960, imposant son Conseil national de sécurité et ses propres cours de justice. Elle a créé un véritable état parallèle, explique Umit Kardash, un ancien juge militaire devenu avocat. Lors du coup d'état sanglant de 1980, Les généraux ont consolidé leur pouvoir d'influence en imposant une constitution autoritaire. Plus de 1,6 million personnes sont fichées, 230 000 jugées et 7 000 condamnations à mort prononcées.
Les militaires sont donc dans les années 80 au summum de leur puissance. Pourtant, ils vont faire une faute qui va leur coûter cher.
Quoi ?
Certains généraux, pourtant des laïcs purs et durs, ont en effet joué les apprentis sorciers. Ils ont pensé qu'en introduisant une pincée de renouveau religieux dans la société turque, ils pourraient mieux la contrôler.
Par l'intermédiaire des imams ?
C'est ainsi, et ce n'est qu'un exemple, qu'ils ont instauré des cours de religion obligatoires dans les écoles.
Mais ça, c'était une entorse grave à la doctrine kémaliste.
Certainement, mais les généraux ont estimé que la religion pouvait jouer un rôle unificateur et nationaliste.
Et ils se sont trompés.
Ah, lourdement, oui, car les islamistes ne vont avoir de cesse d'avancer leurs pions et de grignoter le pouvoir des militaires, jusqu'à ébranler la formidable forteresse mise en place par l'armée. D'autant que les militaires, après avoir exercé pendant 3 ans le pouvoir de façon impitoyable, amorcent une démocratisation en douceur.
C'est-à-dire qu'ils rendent le pouvoir aux civils ?
Apparemment, oui. Mais pour eux, c'est sans danger. Car en réalité, ils continuent de tirer les ficelles grâce à ce Conseil national de sécurité qui leur permet de garder les véritables rênes du pouvoir. Toutefois, c'est vrai. Les civils et les partis politiques reviennent au premier plan. De gauche ou de droite, mais surtout de droite. Ils gouvernent tant bien que mal, malgré de nombreux obstacles.
Et lesquels, alors ?
Il y a d'abord la question kurde. L'armée et ses mercenaires, les lougris, doivent mener une véritable guerre contre les séparatistes qui multiplient les attentats.
Ouais, ça entraîne de nombreuses exactions.
Et même de vrais massacres dans les villages kurdes. Les militaires sont souvent incapables de juguler la férocité des lougris qui deviennent parfois incontrôlables. Autre difficulté pour les gouvernements qui se succèdent à Ankara, la montée de l'islamisme politique.
Ouais, parce que les généraux ont ouvert la boîte de Pandore.
Oui, et en 1996, le parti islamiste, le Refa, remporte les élections et son chef Erbakan accède naturellement au poste de Premier ministre.
Est-ce acceptable ça pour les généraux ?
Bien sûr que non. Ils ne vont pas tarder à réagir. Auparavant, ces mêmes militaires et les civils qui sont au pouvoir...
Mais qui sont, si j'ai bien compris, des marionnettes dans les mains des généraux.
En effet. Donc le pouvoir est confronté à un sérieux problème. Ce qui n'aurait dû être qu'un simple fait divers, un accident de voiture... va devenir un véritable scandale où l'on va mettre à jour les complicités qui existent entre les plus hautes autorités politiques et policières et la mafia. Des connivences qui vont jusqu'à la création d'escadrons de la mort chargés de réprimer l'opposition kurde. Mais je n'insiste pas car nous avons parlé autrefois de cette très grave affaire.
Oui, mais quand ce scandale éclate là, les islamistes sont au pouvoir, hein ? En profitent-ils ?
Pas vraiment. Ils se rendent compte qu'une véritable enquête risque de fragiliser l'ensemble du système politique.
Ils ont peur.
Oui, et c'est surtout la mise en cause de l'armée qui les fait reculer. En réalité, ils ont conscience que s'ils vont trop loin, c'est leur fragile coalition gouvernementale qui volera en éclats. Et prudemment, ils imposent le secret d'État sur les enquêtes ouvertes à la suite du scandale.
Une pusillanimité que n'auront pas leurs successeurs islamistes des années 2000. Hein.
C'est parfaitement exact. Et ça débouchera sur l'affaire Ergenekon. Mais en 1996, ils ne se sentent pas assez forts pour jouer cette carte.
Et ce faisant, ils abdiquent devant la toute-puissance de l'armée.
Et ils signent ainsi leur prochaine défaite. Car les généraux brûlent de l'envie de se débarrasser de ces islamistes qui sont leurs adversaires naturels. Et ça ne tarde guère. En février 1997, l'armée perpètre son 4e putsch. Le gouvernement Erbakan est contraint à la démission et les dirigeants du parti islamiste sont bannis de la vie politique.
Alors les militaires sont donc à nouveau au pouvoir.
Mais comme ils l'ont déjà fait souvent par le passé, ils se dissimulent sous un gouvernement civil, une coalition hétéroclite qui va de l'extrême droite au centre libéral.
Un gouvernement conservateur donc.
Et farouchement anti-islamiste. Pour faire illusion, le nouveau gouvernement lance une opération main propre. L'ancien ministre de l'Intérieur, Mehmet Agar, est par exemple mis en accusation devant la Cour de Sûreté de l'État. Il lui est reproché d'avoir protégé des personnes recherchées et d'avoir créé une organisation armée à des fins délictueuses.
Les escadrons de la mort.
En principe, Agar risque une 20aine d'années de prison, mais son inculpation est soudainement abandonnée. Et un an plus tard, à l'occasion du mariage de sa fille, Agar convie le gratin de la société turque. Et il ne sera plus jamais inquiété. Mieux, il retrouvera un peu plus tard un siège au Parlement.
Ouais. Cette opération main propre a donc été un fiasco.
Plus que jamais, les principaux dignitaires de l'armée et de l'État profond bénéficient d'une impunité totale. Et en 1999, ils peuvent même se prévaloir d'un succès spectaculaire. L'arrestation du principal leader kurde, le légendaire Öcalan.
Et Öcalan qui, depuis cette date, est toujours détenu dans une île isolée.
Cependant, cette incontestable victoire contre l'opposition kurde ne suffit pas à sauver la coalition gouvernementale qui doit faire face à une importante crise économique et démontre son incompétence à l'occasion du terrible tremblement de terre de 1999.
Il y a eu plusieurs milliers de morts.
Une vingtaine de milliers, oui. Et le gouvernement n'a guère brillé en cette affaire. Ajoutez à cela l'impopularité grandissante du Premier ministre, Bülent Ecevit, et vous comprendrez que la Turquie est sur le point de connaître un nouveau bouleversement. En 2002, le Parti de la Justice et du Développement remporte les élections législatives.
Ouais, et c'est un parti islamiste. Hein.
L'AKP se réclame en effet de l'islam. Mais ses dirigeants, et parmi eux le Premier ministre actuel, Recep Erdogan, prennent soin de se démarquer de l'intégrisme musulman.
Oui, car ils savent que l'armée ne tolérerait pas une rupture avec le kémalisme laïque. Hein.
En fait, si Erdogan et les siens ont gagné, c'est qu'ils ont joué habilement de la lassitude d'une population irritée par la corruption latente d'élites criminalisées et la mainmise permanente de l'armée sur le pouvoir.
Mais à votre avis, alors, ces islamistes de l'AKP sont-ils vraiment des modérés ou avancent-ils masqués ?
Il faut observer qu'à chaque fois qu'ils le peuvent, ils essaieront d'enfoncer un coin dans la laïcité, sur le port du voile par exemple, ou encore sur la criminalisation de l'adultère. Mais en même temps, ils savent reculer lorsque l'armée menace.
Et puis à l'Europe
Erdogan est alors un farouche partisan de l'entrée de son pays dans l'Union européenne. Il doit donc donner des gages à Bruxelles et ne pas s'engager dans un islamisme qui ferait peur. Mais il faut bien dire que l'Union européenne est plutôt bienveillante avec Erdogan. Beaucoup de leaders européens considèrent que l'AKP est une sorte d'équivalent musulman des démocraties chrétiennes à l'occidentale.
Ouais. Alors, je reviens à ma question, moi. Ces islamistes se dissimulent-ils ?
Je le pense. Les dernières évolutions le montrent. Mais ils doivent d'abord affaiblir l'armée. Et ils vont y arriver en dénonçant les complots fomentés par les généraux. Toutefois, si certains sont avérés, on peut douter de la réalité des autres. Mais nous verrons cela samedi prochain.
À suivre donc, et sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission et communiquer avec nous. Rebecca de Nantes a préparé cette émission qui a été réalisée avec Stéphane Combe et Michel Biou et des petites notes de musique de Monsieur Djoub. Tout de suite après le flash, on se balade sur Où de mon amour de Denis Chessou.